Nous sommes mardi, il est 21 h et c'est l'heure du dojo bar. Voilà, bonsoir et bienvenue au dojo bar.
Salut, salut à tous.
Salut.
Salut les news. Voilà, et nous accueillons ce soir nos superbes invités, Frosty's Advance du site Nintendo Man.
Superbe invité, ouais. Bonjour à tous.
Salut Frofro.
Voilà, et Antix qui est un pilier de forum de Nintendo Man. En fait, on fait une émission mixte, on a décidé de faire un 50-50, 50% dojo, 50% Nintendo Man.
C'est ça.
C'est la parité, ouais. C'est bien.
C'est la parité. Un jour, il faudra qu'on ait une fille pour essayer de faire une vraie parité.
Ouais, c'est
ça, pas mal.
Je pense que ça va être. Non, t'as pas le droit de dire ça, c'est raciste.
Un Taïwanais clandestin.
Voilà. Il nous faudrait aussi un lutin, un nain, un noir. On va pas y arriver. Hein. Ou alors, il faut trouver un lutin, nain, noir, femme. Voilà. C'est la seule solution que j'ai.
Et après, on va
faire des recherches.
On va poster ça sur Twitter, on va trouver.
Cette émission démarre donc très bien.
Voilà, mais comme d'habitude. Donc, de quoi allons-nous parler ce soir? Eh bien, dans notre sujet, on refait le monde autour d'une binouze. On va parler du zonage pour les consoles, du fameux Region Lock.
Yes.
De tout ce qui est blocage régional sur nos consoles favorites, du passé comme du présent. Et dans notre seconde partie de l'émission, l'Open Bar, nous allons discuter des jeux de l'été.
Du tube de l'été,
mais version jeux vidéo.
Exactement.
Mais pour commencer,
un petit tour de ta table, de l'actu. T'as vu, voilà. Je double les syllabes à l'avance.
Ouais,
comme ça, il y a pas un connard qui le fait derrière. Tu m'emmerdes, ce connard qui fait toujours ça d'ailleurs.
Tour. Donc, alors comme on a une actualité extrêmement chargée en ce moment, hein, c'est très très difficile d'arriver à trier les sujets. D'ailleurs, le traitement de l'actualité prend un temps fou. Hein, je pense que Frosty, ça a dû passer au moins 3 minutes depuis le début de la journée.
Au moins,
le minimum, hein, vraiment minimum. Donc, on va commencer par Antix qui avait un petit quelque chose à nous dire à propos de Tim Schafer, si je dis pas de bêtises.
Ouais, c'est à peu près ça. Donc, pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité de Kickstarter, ce qui n'est pas toujours mon cas, mais je la suis relativement de loin. Donc, Tim Schafer, qui est entre autres le créateur de Day of the Tentacle de LucasArts, a annoncé récemment que les 3 et quelques millions qu'il avait réussi à lever par crowdfunding sur Kickstarter n'étaient pas suffisants pour faire son prochain jeu qui s'appelle Broken Age et qu'il allait devoir le couper en deux. Et enfin, là où ça me pose personnellement problème, c'est qu'à la base, il avait quand même demandé 400 000 dollars, et donc du coup, avec pratiquement 6 fois plus, il n'a pas été capable de finir le jeu, donc c'est un peu étrange. Enfin,
alors, 4 fois 6, 24, donc il va falloir réviser les maths.
Ouais, ça va, c'était il y a 5 ans le bac, ok.
Maintenant, c'est bon, ça sert plus à rien.
Voilà. Non mais c'est effectivement étonnant, surtout quand on a commencé la campagne à 400 000 dollars, parce que le principe de Kickstarter, c'est pas de mettre un chiffre pour être sûr de l'exploser, le principe c'est de dire de combien on a besoin.
Parce que le nombre de personnes qui atteignent pas leur chiffre, déjà, c'est assez élevé, donc le dépasser comme il a fait...
Ouais, et puis lui joue sur le nom, tu vois, Tim Schafer, il met qui fait un nouveau jeu, tout le monde va mettre des thunes.
Bah, c'est à peu près pour ça, à mon avis, qu'il a tout explosé. Ouais. Et d'ailleurs, le dernier point important, c'est que c'est vraiment le premier à avoir fait un score aussi élevé sur Kickstarter. C'est un peu l'exemple de la réussite du site.
C'est le vrai record c'est un vrai record section jeux vidéo ou c'est un record absolu?
C'est celui plus ou moins qui a lancé la mode des Kickstarter sur la section jeux vidéo.
D'accord, donc
celui qui a la plus grosse en fait. je dis rien.
En tout cas, en 2012, c'est lui qui avait la plus grosse.
Ah bon. Mais il est quand même pas capable de faire son putain de jeu. Je crois qu'il essaye de payer sa Ferrari en fait.
Mais c'est trop ça. Il a peut-être des travaux à faire dans sa maison et puis voilà.
Ouais, voilà. Il démontre le concept complet de Kickstarter. Avec plein de syllabes. Qui est en gros de donner du pognon. Et puis après, grosso modo, bon, ils en font ce qu'ils veulent quoi. Un petit jeu quoi. Coupé en deux, coupé en trois, coupé en quatre.
Il va faire un jeu épisodique. C'est-à-dire qu'il va sortir un épisode tous les mois.
Payant.
En DLC payant.
Ouais, c'est ça.
En bêta pas fini aussi.
Oui, mais ça c'est normal. Non. Ça, la bêta pas fini, c'est une bonne habitude.
Patché est traduit par la communauté.
Celle qui a payé. Donc en fait, en gros, les mecs payent pour avoir un jeu de Tim Schafer. Ensuite, ils traduisent et ils payent. C'est pas mal.
Avec un moteur 3D gratuit, histoire 2.
Voilà, non mais franchement, mais je vous sens bien parti.
C'est pas le premier, enfin c'est pas le premier projet à tomber comme ça un peu à l'eau au final.
Bah, Kickstarter c'est rempli de projets. Alors il y a le problème de Kickstarter, c'est qu'il y a quelques trucs qui marchent et qu'il y a énormément de trucs qui se cassent la gueule au final.
Le dernier en date là, qui c'était sur Wii U et PC là,
Denis Dayak qui avait tenté une suite spirituelle d'Eternal Darkness puisqu'il a plus les droits.
Ouais, voilà. Et... ça tombe un peu à la fin, ça tombe un peu à la flotte. Hein.
C'est tombé à la flotte.
Il y a une autre histoire à côté, mais bon.
C'est tombé complètement à la flotte.
Ouais. En même temps, il avait demandé 1 million de dollars. Je trouve que c'est déjà ça énorme pour du crowdfunding, quoi.
Voilà, après, il avait pas assez d'argent. Là, l'autre, là, Tim Schafer, il a un max de blé. Il a 4 fois plus d'après Antix. Mais là, il le fait pas. Donc, on sait même pas pourquoi, au final, il le fait pas, le jeu.
Mais pas, c'est parce qu'il s'est payé 4 fois plus de pute et qu'il a plus de pognon.
Il a expliqué aussi en partie pourquoi il n'avait pas eu assez d'argent pour le finir. C'est que apparemment avec les 3 millions, il lui a un peu poussé des ailes et il s'est dit ouais, je vais faire du truc de fou que j'avais pas prévu à la base.
Ouais, mais imagine, le mec il a 20 ans de carrière ou 30 ans et il s'est pas budgété un de ses projets, c'est un peu débile quoi.
Ouais, mais ça c'est non, mais attends,
c'est ma vision, mais
avant ouais, il avait surtout des éditeurs derrière pour lui dire mais tu vas dépasser le budget, mais il faut que t'arrêtes.
Ouais, voilà, c'est ça. Là, le problème, c'est ça, c'est que c'est un technicien, hein, Tim Schafer, c'est pas un...
Ouais,
voilà.
C'est pas un gestionnaire à la base.
Mais bon, en tout cas, ça montre bien le problème de Kickstarter au final.
Bah, de toute façon, tant que les gens donnent, bon voilà.
Ouais, ouais,
si les gens sont assez cons pour l'acheter, moi je le vends.
Il y a des trucs bien qui sortent de Kickstarter aussi, mais bon.
Ah oui, il y en a des.
Bon, voilà. Mais...
Ouais,
c'est quand même ultra tendancieux. Ouais. C'est quand même ultra tendancieux comme fonctionnement, quoi.
Voilà. Alors moi, je vais vous parler d'un autre petit sujet d'actualité, un truc qui s'est passé il y a environ 2 semaines, c'est le piratage de Uplay. Alors je précise, un Uplay, ce n'est pas un yaourt liquide dans une bouteille blanche. Hein, c'est le... Non mais rigolez pas comme ça. C'est le service qu'on sait pas à quoi ça sert d'Ubisoft, qui t'embête quand tu démarres un jeu Ubisoft sur ta console. C'est le truc que t'appuies sur Y pour passer parce que t'as pas envie de t'inscrire. Voilà, c'est ça que Uplay. Enfin, moi, je sais pas à quoi ça sert d'autre, en fait.
Ça sert à rien.
En tout cas, ils l'ont pas mis sur Rayman Origins, donc c'est que ça devait pas être si bien que ça.
C'est possible.
Bah, ils veulent faire un Origins comme Electronic Arts ou des trucs comme ça.
Oui, mais on peut pas télécharger de jeux dessus, donc.
Si, je crois qu'on peut. Il y a des boutiques
qui sont ouais, si, sur console, non, mais sur la Wii U, ça sert à rien, par exemple, à part à consulter ton compte.
Si, attends, t'as une super application. Ça sert à rien.
Wow. Tu veux dire?
Attends, quand même, oh.
C'est à peu près la seule application sur Wii U qui est pas utilisable au tactile, quoi. Ah non, il y a YouTube aussi qui est pas utilisable au tactile. Et puis il y a pas d'autres applications.
Non,
je crois.
Par contre, il y avait un truc bien dans Uplay, c'est que t'as des succès Uplay dans les jeux Ubisoft et qui débloquent vraiment des DLC en fait pour tes jeux. Enfin, des DLC, genre des skins et des machins.
Ouais. En faisant certains trucs en jeu, tu cumules des points et les points tu les utilises comme tu veux, soit dans le jeu en cours, soit dans un autre jeu.
Donc bon, c'est très utile pour résumer.
C'est pas utile
c'est
du tout,
excessivement,
mais c'était pas mal. L'idée était pas mal. Mais oui, c'est naze.
Mais c'était pas mal quand même.
Pour en revenir au sujet, ils se sont fait donc pirater leur serveur Uplay, et donc le pirate, alors Ubisoft rassure tout le monde, le pirate a récupéré très peu d'informations. Il a récupéré des logins, des adresses mail, des mots de passe chiffrés, et on a eu aussi la confirmation qu'il avait récupéré très peu d'infos, parce qu'en réalité, il n'y a que 3 comptes hein, sur Uplay au total. Donc Ubisoft a quand même fait une communication en grand pour les 3 utilisateurs qui s'étaient fait pirater, leur a demandé de changer leur mot de passe, et finalement, tout est bien qui finit bien dans le meilleur des mondes. Hein. Ubisoft peut continuer à fournir Uplay à tout le monde. Alors j'aimerais adresser ce soir un message solennel de solidarité envers les admins 6 d'Ubisoft qui ont découvert la faille, qui ont été obligés de la corriger, parfois au prix de leur vie. Hein, il faut quand même bien en être conscient.
Ils ont téléchargé un patch.
Non, mais
ils
une faille dangereuse, tu tombes dedans,
fait
t'es
un
mort.
Patch. Hein. Ah non, mais c'est super dangereux. Hein. Il y a une faille de sécurité, je te jure, tu mets le bras dedans, c'est fini. Hein.
Ah, moi j'en ai vu, c'est
prends
moche.
Prends ta jambe avec.
C'est super moche. Donc j'aimerais adresser un message de soutien en forme d'avertissement hein, envers le pirate, le vilain pirate pas beau, qui a volé ses 3 comptes. Touche pas à mon Youp. Voilà.
Très très bon.
Voilà, donc j'avais bon. Rien d'autre, je suis désolé, c'est le truc qui m'a inspiré ces 2 dernières semaines. Je sais que c'est minable, mais j'assume plus ou moins.
Vous vous rendez compte quand même, ça fait 2 semaines qu'il est dessus. Hein. quand même.
c'est super travaillé. Hein. C'est... Là, c'est un boulot de malade. Attends, il y a un boulot d'écriture derrière, tu te rends même pas compte.
Si, si, on s'en rend compte, c'est absolument affolant. D'ailleurs, il y a Nintendo qui s'est fait pirater la gueule au Japon dans la foulée. Je sais pas si vous avez suivi un petit peu.
Oui,
il y a
j'ai vu ça, oui.
Le Club Nintendo, ouais. 20 000 comptes dont les données ont été... On filtrait quelque part ailleurs. Moi, j'ai oublié ce que ça concernait. Si c'est merde.
Les gens vont plus pouvoir recevoir leur stylo Mario.
Qu'est-ce qu'ils vont faire ?
Mon Dieu, toutes ces étoiles.
On leur a volé leurs étoiles. Elles sont retournées dans le ciel. C'est beau, ça.
Voilà, donc c'est horrible. On dit vraiment que de la merde ce soir. C'est horrible. Bref, on va marquer une première petite pause musicale.
Attends, j'ai une super actu. Je suis de retour quand même.
Ah, vas-y, t'as
dit. Ouais, je suis de retour.
Oh, mais Dieu.
Voilà, pause musicale.
Ok, donc c'est officiellement n'importe quoi. Et pour fêter le retour de la chaleur, au moins dans nos contrées...
Et de Méduse, d'accord.
On va s'écouter un petit morceau qui est extrait de la bande originale de Super Mario Sunshine, histoire de mettre un petit peu de soleil dans nos vies.
Ah ouais, putain, faut que je le fasse, tiens.
Ah, tu l'as jamais fait.
Non mais moi je fais des jeux en fonction du temps des qui est dehors.
Tu quittes de suite l'émission, tu vas faire le jeu s'il te plaît.
Moi l'été,
tu prends la porte du bar et tu vas faire le jeu.
Bon allez, on se retrouve dans un tout petit peu
c'est
plus de
c'est quoi le titre du
minutes.
Morceau
C'est Delfino Plaza Theme.
Il y a des méduses dedans.
Bon, à tout à l'heure. Et nous voilà de retour. Ça y est. Ils sont repartis. Alors, il y a quelqu'un qui a décapsulé hors antenne. Moi, je tiens à signaler que c'est un scandale. Donc, Antix, tu vas te fouetter avec des poireaux. Cuits.
Oui, maître. J'ai pas de poireaux, par contre.
Non, mais s'ils sont cuits, ça fait moins
j'ai
mal.
J'ai des concombres.
Oui, mais justement, moins c'est tranchant, plus ça fait mal.
Déjà, je vais commencer par te bannir du forum. Ce sera ça de fait.
Voilà. Ensuite, on va essayer de te tuer à coups de figue molle. Ça va prendre un certain temps. Mais on assume. Bref, on va peut-être entamer le sujet sérieux. Cette émission est par vraiment complètement cacahuète, mais alors, puissance 4, hein, là, je...
Fallait pas nous inviter, hein,
c'est... En même temps, on s'attendait à ça. Hein.
Carrément. C'est alors, la chaleur.
On va parler de zonage des consoles. Je sais pas si vous avez vu, donc ça, c'est fait partie de l'actualité récente qui n'a pas été traitée dans le tour de table de l'actu, parce qu'on en traite dans un sujet un petit peu plus long. Mais il y a eu une sorte de fronde, notamment sur le Miiverse, pour demander à Nintendo de dézoner complètement la Wii U, et il me semble de dézoner aussi la 3DS. Il y a eu un mouvement pour dire voilà, dézoner toutes vos consoles, le zonage n'a plus du tout de sens.
Voilà, exactement. Il y a donc, une pétition aussi qui a tourné sur Internet et qui récolte à l'heure actuelle, je crois, je sais pas, autour de 12-15 000 signatures, quelque chose comme ça.
Il y en a un qui déménage.
C'est où ça dans le
C'est bon, tu t'es relevé du pot.
C'était où dans le Miiverse, ça
parce qu'en fait, c'était j'ai... sur la page de Satoru Iwata. Parce que qui t'a chié, autant chier sur la page de Satoru Iwata.
Il y a eu plein de dessins. My Body's Region Free. Ce genre de conneries, ça m'a fait marrer.
C'était
marrant,
tout à fait drôle, d'ailleurs.
Ouais.
Voilà, donc, alors, zonage ou pas zonage, d'abord, il faut savoir qu'il y a une raison historique au zonage. Donc là, je vais faire un petit peu papy mortal.
Raconte-moi une histoire.
Je vais vous raconter une belle histoire. Il était une fois, il y a très 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 longtemps, des consoles qui ne pouvaient pas fonctionner sur les télés françaises, notamment.
Non, pourquoi ?
Ben oui, mais c'est normal.
Je devais pas être né à l'époque.
C'est possible, ouais. Moi, j'étais né. Comme ça. Alors, il faut savoir qu'en France, on a une norme un peu particulière, c'est-à-dire qu'à partir de 1981, les téléviseurs français sont équipés d'une prise péri-télévision qui peut recevoir un signal CCAM ou un signal RGB. Ça, c'est les deux signaux qui étaient obligatoires, et après, vous pouvez recevoir autre chose, du PAL, du composite et autres. Mais voilà, donc la seule connectique disponible, c'était ça. La plupart des télés européennes ne pouvaient recevoir que du PAL et pas du NTSC, parce qu'il se trouve qu'en Europe, on a une télé qui, certes, a une résolution un peu plus élevée, mais qui est en 50 Hz, alors que les Japonais et les Américains ont des consoles qui sont en 60 Hz.
Ils ont des vraies télés.
Ils ont des vraies télés.
Enfin, ils avaient des vraies télés.
Enfin, ils ont une résolution plus petite en même temps, donc...
Oui, mais les Japonais, on a des plus petites aussi, donc c'est normal. C'est... ça va avec.
Ceci explique cela.
C'est raciste, voilà. Ce que tu dis. donc, il y a une vraie raison technique au fait d'avoir zoné les consoles au départ, c'était pour empêcher les gens d'avoir... Enfin, de ramener la console à la maison, de la brancher et qu'elle marche pas, quoi. C'est aussi con que ça. Mais la raison d'origine, c'était ça. Le blocage des jeux, il y a aussi une raison commerciale, c'est que c'est pas toujours les constructeurs des machines qui les commercialisent dans les différentes zones géographiques. Il faut se rappeler par exemple que la NES était commercialisée en Europe, donc en France, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, c'est Nintendo qui commercialisait la NES, donc il y avait une zone PAL A, qui est la zone dans laquelle nous nous trouvons, et en fait c'est Mattel qui distribuait la NES en Espagne, au Portugal, en Italie et en gros dans toute l'Europe du Sud. Et le problème c'est qu'il fallait pas qu'il y ait un distributeur qui puisse manger le marché d'un autre. Donc il y a un blocage régional qui a été fait pour ça, c'était pas pour embêter les joueurs, c'était juste d'un point de vue commercial pour pouvoir s'assurer que le distributeur va faire correctement son boulot. Alors, donc ça c'était les raisons historiques. Aujourd'hui, on a quasiment tous des écrans haute définition, donc on reçoit quasiment tous les mêmes signaux, on a des télés évoluées qui sont capables de lire du PAL, du CECAM, du NTSC, du tout ce que tu veux. Donc est-ce que le blocage régional a encore un sens? Voilà, c'est la question que j'ai envie de vous poser. Antix, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi tu es pour ou contre le blocage régional?
Fondamentalement, moi je dirais que je suis quand même plutôt contre. C'est plutôt précis. Dans le sens où on est quand même à une époque où c'est assez facile d'accéder à du contenu qui se trouve de l'autre côté de l'Atlantique ou de l'autre côté de l'Asie. Et que c'est vrai que c'est un peu dommage de ne pas pouvoir en profiter quand il reste sur place. Par contre, à l'heure actuelle... comment dire?
Cherche bien tes mots. Hein.
Ouais, je suis pas trop réfléchir. Après, je comprends quand même la logique de la garder actuellement. C'est vraiment un point de vue commercial. C'est que ça évite que ton jeu que tu as envie de sortir en Europe, il se fasse plomber parce que tout le monde l'a acheté 6 mois plus tôt aux États-Unis et l'a amené chez lui en France.
Ah, mais au final, les ventes, c'est toujours les mêmes. Enfin, sauf si t'as, ça peut se justifier si c'est pas le même éditeur en fonction des zones régionales éventuellement, mais c'est à peu près tout.
Et ben, il y a une solution. Ils ont qu'à faire des putains de sorties mondiales. Voilà.
Bah, mais c'est vrai, c'est
en plus, oui, hein.
Ils le font de plus en plus pour Pokémon XY, tout sort dans le monde au même jour. Bah, je vois pas pourquoi il y aurait du zonage au final.
Alors, effectivement, ils peuvent se le permettre sur Pokémon XY, ils peuvent peut-être pas se le permettre sur d'autres jeux
sur dont d'autres,
le calendrier coïnciderait avec, tu vois, tu sors pas, si tu veux sortir un nouveau Mario, ne le sors pas le jour de GTA 4, de GTA 5, tu vois.
Ouais,
au Japon, tu t'en fous, mais,
qui
en
maintenant,
Europe, c'est un peu compliqué.
Est-ce qu'on est des millions et des millions à acheter en import?
Mais est-ce que t'as encore besoin d'acheter en import?
Ouais, voilà, en plus.
Parce que la vraie question, elle est plutôt là. Il y a quelques années, quand t'avais des localisations toutes pourries ou super tardives, ou que t'as entre le jeu, la sortie du jeu au Japon, la sortie du jeu en Europe, il se passait 2 ans et demi.
Non, ou carrément que le jeu sortait pas.
Ou le jeu sortait pas, ou alors t'as des jeux qui sont jamais sortis. Je veux dire, Chrono Trigger est jamais sorti en Europe. Il y a plein de jeux qui sont sortis au Japon, aux États-Unis, jamais en Europe. Il y a plein de jeux qui ont été localisés à la truelle. Donc il y avait une nécessité finalement à l'import. Il y avait d'une certaine manière un vrai marché puisqu'il y a des gens qui ne sortaient pas en Europe et il y avait une vraie nécessité à avoir de l'import. Est-ce qu'aujourd'hui ça se justifie quand entre la sortie japonaise, américaine, européenne, il y a 2 semaines quoi?
Non, c'est débile maintenant. Enfin,
disons que du point de vue joueur, c'est clair qu'il y a zéro argument. Si ce n'est qu'on a parfois eu des versions européennes qui étaient supérieures aux versions. Aux versions américaines ou japonaises, parce que le délai de sortie était tellement long qu'entre temps on s'est rendu compte de bugs importants qui ont été corrigés dans la version européenne, mais pas dans les autres versions. C'est arrivé sur le premier Metroid Prime où il y a eu des glitches et des frites sur les versions américaines, je crois.
Là, tout à fait. Plus dur en Europe,
et après, ça a été corrigé sur l'Europe, donc là, quelque part, on a eu un bénéfice à attendre. Maintenant, quand tu fais un jeu, il n'est pas censé comporter des bugs majeurs à la sortie, de toute
et
façon.
Et en même temps, entre la sortie, même dans ce cas-là, entre la sortie américaine et la sortie européenne, il me semble qu'il y a eu quelque chose comme 2 mois. Donc, c'est pas non plus.
Ça a peut-être suffi à corriger.
Ça a été très rapide.
Voilà.
Donc, tu vois, aujourd'hui, si l'import n'est plus nécessaire, du coup, le blocage régional, est-ce que t'en aurais pas juste un peu rien à foutre?
Du point de vue joueur, t'en as de toute façon rien à foutre.
Il y a toujours des jeux qui restent qu'au Japon.
Mais qui n'intéresse que les Japonais, après, c'est ça le truc.
T'as toujours les fans d'anime qui vont vouloir leur Naruto.
Ouais,
Naruto, maintenant, ça sort en France.
Les Naruto, les Bleach, les Dragon Ball et les trucs comme ça, ça sort en France. Hein.
Les trucs un peu moins connus, genre les Gundam, qui marchent absolument pas hors du Japon, par exemple, ça reste au Japon.
Oui, mais là, c'est normal.
Il y a des gens qui s'intéressent.
Ouais, ouais, il y a toute une série de jeux, enfin, toute une série d'amateurs de culture japonaise qui veulent des séries, qui sortent pas par ici.
Mais du coup, quand t'es un fan de séries japonaises ou quand t'es un fan de jeux japonais, effectivement, franchement, il faudrait compter, mais je pense que sur les deux ou trois dernières générations de machines, s'il y a 10% de la ludothèque qui est pas sortie du Japon, ça doit être le grand maximum. Je connais quelques jeux qui sont jamais sortis des États-Unis, mais il y en a très 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 peu. Donc finalement, les gens qui de toute façon veulent faire de l'import, ils ont une console japonaise, en plus du jeu japonais.
Sur console Nintendo peut-être, mais c'était moins le cas sur PSP par exemple. T'as toute une série de RPG qui ont pas quitté le Japon quoi. Après la PSP,
et puis la PSP se vend pas en plus. Enfin, c'est pas bien vendu comme la Vita, elle a un peu de mal. Mais quand tu as par exemple la 3DS qui se vend quand même plutôt pas mal. Pas déconner, elle est zonée quoi, donc c'est un peu débile de la part de Nintendo.
Alors justement, c'est bien que tu abordes le sujet parce que j'aurais aimé qu'on aborde. Donc c'est le zonage des consoles portables, est-ce que vous trouvez pas ça complètement con? Parce que c'est vrai que je crois que la 3DS est la première, pour moi, et la seule console portable à être zonée.
DSi.
Alors la DSi, je sais plus si elle était, elle était zonée.
Ouais. Je crois que c'était une histoire de DSiWare en même temps et
ouais,
du coup
ouais, voilà.
C'est Nintendo, les réseaux, c'est pas trop leur truc.
Bon, enfin, je crois que c'était ça. Et Sony aussi, c'est zoné hein, les boutiques en ligne.
Alors les boutiques sont zonées, mais pas les machines. Je veux dire, la PSP elle est pas zonée, la PS Vita elle est pas zonée. Enfin, je veux dire, la 3DS, autant je peux imaginer pour une console de salon, si tu veux, t'es obligé de faire de l'import, donc t'es obligé d'aller dans des magasins spécialisés ou d'aller le commander sur Internet. Ça te coûte à peu près un bras en frais de port, quoi qu'il arrive. Et tout ça pour avoir ton jeu 2 semaines avant. Mais admettons, voilà, t'es un gros hardcore, tu veux l'avoir 2 semaines avant et en version japonaise. Je peux admettre. Autant sur une console portable, je me dis, tu voyages aux États-Unis, tu te fais chier dans un aéroport, t'achètes un jeu, il marche pas. C'est l'exemple qui me vient.
Ouais, t'as l'air con, ouais.
C'est un peu chiant, ouais. Ça, c'est sûr.
Mais oui, clairement, parce qu'avec les consoles portables sont de toute façon destinées. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui voyagent, qui changent de continent. C'est pas pour se faire chier à se trinque-baler une 3DS Jap, une européenne, une américaine.
Il y a même plus de problème de télé. Enfin, c'est la même console.
Il y a pas de justification technique en tout cas.
Au niveau technique, ouais. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est certainement stratégique au niveau des pays pour avoir un.
Il y a des raisons qui, enfin, je veux dire, du point de vue joueur, ça n'a strictement aucun intérêt. Mais il y a des raisons au zonage qui sont simplement liées aux stratégies commerciales. Grosso modo, vu que les marchés sont segmentés, donc par exemple pour Nintendo, on a Nintendo Europe, Nintendo America, blablabla, Nintendo Japon, il y a un intérêt à pouvoir maîtriser les flux financiers. Donc si, je sais pas moi, on prend Bravely Default par exemple, qui va seulement débarquer, je crois, fin de l'année en Europe et qui est sorti il y a plus d'un an au Japon, il est extrêmement attendu. Il y a des gens qui l'ont importé, il y a des gens qui demandent Bravely Default, il faut qu'il arrive, et maintenant qu'il est annoncé, tout le monde est rassuré. Seulement voilà, qu'est-ce qui se serait passé si on avait importé massivement du Bravely Default parce qu'on est comme des oufs? Bon, même si ça concerne qu'une minorité des gens, grosso modo.
Ça serait peut-être jamais sorti.
On n'aurait pas compris l'histoire surtout.
Oui, il y a des caractères bizarres au lieu d'avoir des lettres. Qu'est-ce qui se passe?
Grosso modo, Nintendo aurait rentré moins de pognon avec les versions européennes qu'avec les versions japonaises.
Est-ce qu'on en est sûr de ça? Parce qu'au final, est-ce que tu peux vraiment faire de l'import massif? Si tu prends le prix d'un jeu importé, même si tu l'achètes au Japon sur une boutique spécialisée, je sais pas quoi, tu vas le payer trois fois, enfin peut-être pas trois fois, tu vas le payer au moins 25% plus cher que s'il sortait en Europe. Et en plus, effectivement, il y a des caractères qu'on comprend pas.
Joueur, mais Nintendo rend de toute façon le même pognon que si c'était un japonais qui l'achetait au Japon, tu vois. Et
c'est pas une histoire d'impôt aussi.
Nintendo préfère rentrer du pognon des versions européennes de Bravely Default que les Européens achèteront plutôt que des versions japonaises. Pourquoi? Parce que actuellement le taux de change est favorable.
Vas-y, Fix, tu voulais rajouter quelque chose?
C'est plus une question économique, genre. Si t'achètes en France, ça fait marcher le marché français. Si t'achètes au Japon, ça fait marcher le marché japonais, tout simplement.
C'est ce que je suis en train d'expliquer.
Ouais, voilà. Ah, voilà.
Non, mais grosso modo, le fait d'avoir trois marchés séparés, ça leur permet, selon les fluctuations des devises dans les différents marchés, de pouvoir rentrer à peu près, grosso modo, un montant équivalent de pognon, que s'ils avaient, par exemple, si tout était...
S'il y avait qu'une seule région mondiale.
Voilà, s'il y avait qu'une seule région, tu vas, on suppose qu'il y a des, le Japon va plus exporter de jeux, mais Nintendo va moins rentrer de pognon, parce que le taux de change ne sera pas, enfin, il est plutôt favorable à Nintendo quand ils vendent à l'extérieur qu'à l'intérieur, grosso modo.
Donc pour toi, il y a une des justifications, c'est ça. C'est parce que Nintendo spécule sur les futurs de ses propres actions en rachetant des obligations de ses propres filiales au rabais. En fait, c'est ça que tu es en train de dire.
Non, je pense qu'ils sont en train de spéculer.
En profitant du taux de change pour aller le prendre en Europe, pour profiter en fait de la faiblesse euro-yen par rapport au yuan. Et donc, c'est n'importe quoi.
Pourquoi c'est venu en cours d'éco là?
Alors, on va faire un cours d'économie. Alors, effectivement, ça peut être une justification. Il y a quand même une justification peut-être très très bête. C'est le confort des utilisateurs. Hein. C'est aussi con que ça. Moi, je reviens quand même sur le principe de base. Si tu parles pas japonais, Bravely Default, je pense que globalement, tu vas pas y comprendre grand-chose. Hein.
Ça, c'est certain. Ça concerne ça concerne qu'une minorité de gens. Mais bon, je veux dire, dans le but d'optimiser un petit peu leurs choses, voilà, Nintendo choisit le zonage, même si... point de vue joueur, c'est un mauvais choix. Après, t'as aussi le fait que Nintendo doit pouvoir justifier, comprendre la rentabilité économique de ses structures à l'étranger, quoi que ce soit pour Nintendo Europe, Nintendo France, USA, etc.
Je vois difficilement comment un jeu, je vois difficilement quel jeu ou quel type de jeu pourrait justifier d'une perte sèche de vente dans une autre région que le Japon. C'est-à-dire, genre, imagine que t'es un Mario Kart qui sort 6 mois avant tout le monde au Japon, je vois même pas comment tu peux avoir même 50 000 imports européens, ça me paraît énorme.
Mais après, il n'y a pas que l'Europe aussi, tu vois.
Mais même les États-Unis, t'as 100 000 importations américaines, c'est énorme.
Après, si l'attente c'est 2 ans, peut-être que les gens vont réfléchir, mais c'est impossible, on le sait très bien. Hein. Mais t'as ce genre de truc-là, à mon avis, qui entre un petit peu en compte quand ils font leur schmilblick, j'ai envie de dire.
Moi, je pense que ce qui rentre en compte, surtout, c'est que tu sors ton jeu au Japon quand il est fini de traduire en japonais, et si c'est un grand succès, tu vas aller le traduire dans les autres langues pour éventuellement essayer de le vendre ailleurs. Alors, je pense que c'est juste ça.
Et du coup, le zonage permet aussi de mieux maîtriser la demande quelque part, tu vois. C'est plus facile de savoir pour la France, 60 millions d'habitants, combien à peu près il faut produire de jeux, plutôt que de savoir pour la planète entière 6 milliards, combien est-ce qu'il faut produire, tu vois. En analysant séparément les demandes, ils y arrivent à mieux.
Il ne faut pas oublier d'éviter de renier les marges de Nintendo of Brazil, le taux de change réel yen par rapport aux obligations chinoises sur le yuan est quand même un peu tendu.
Tout à fait.
T'as perdu la moitié des auditeurs, c'est...
Mais les arguments en faveur du zonage sont minimes, hein. c'est que des trucs qui concernent de toute façon la dimension commerciale et
c'est clair. Maintenant, jusqu'à présent, moi ce que j'ai compris, je résume un petit peu les arguments de tout le monde, là, j'essaie de faire une petite synthèse entre guillemets. Le zonage, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que pour le joueur, pour le constructeur, ça lui complique la vie, ça rajoute effectivement une DRM supplémentaire à gérer qui est pas forcément facile. Il y a éventuellement l'argument commercial des différentes boutiques dématérialisées qui sont obligées de suivre des réglementations particulières. On se rappelle du cas de la Wii U, où à cause de la réglementation en Allemagne, on pouvait pas télécharger de jeux 18+ avant 22h, ou avant 23h, quelque chose comme ça, il y avait une astuce.
Ça, c'était génial, ça.
Voilà, c'est très intelligent. Mais je comprends,
c'est le problème de Nintendo qui est très à cheval sur la partie juridique.
Voilà, mais ils ont raison en même temps d'être à cheval, parce que s'ils se prennent un procès,
Ouais, surtout que les Allemands, ils sont forts. Ils sont encore dans le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale, donc dès que tu leur mets Carmageddon avec du sang, c'est déjà mort. Enfin, il y a tout des.
Voilà, dès que tu mets les 3 gamins, étonnamment, ils s'offusquent. Je sais pas pourquoi.
Rien que l'accès à l'eShop, déjà, il faut avoir plus de 13 ans, je sais pas trop quoi, et puis une carte bleue.
Oui, c'est pareil que pour Steam, en fait, c'est pareil que pour beaucoup de trucs comme ça.
Apple, c'est pareil aussi.
Et Apple fait pareil aussi. Donc, vous avez d'un côté l'argument, le zonage régional, ça sert strictement à rien. Et de l'autre côté, vous n'êtes pas capable de me démontrer que l'import, ça sert encore à quelque chose. Donc, je sais pas si vous voyez le problème. C'est d'un côté, l'import n'a aucun intérêt. De l'autre côté, le zonage n'a aucun intérêt. Et comment on fait?
Mais c'est ça, les intérêts sont minimes. Que ce soit le nombre de gens qui sont intéressés par l'import, par rapport à la taille du marché, ou même si on considère uniquement par la taille du marché core gamer, ça reste minime. Et les arguments de Nintendo sont extrêmement minimes, mais ils les maintiennent quand même. Et d'ailleurs, on peut se poser la question de pourquoi ils les maintiennent effectivement, puisque Sony et Microsoft ont lâché l'affaire. Que ce soit sur console de salon ou portable, donc... Voilà.
Oui,
Par contre, sur, enfin, j'ai appris aujourd'hui même que sur 360, c'est assez compliqué parce que la liberté était laissée aux éditeurs de choisir ce qu'ils voulaient faire en termes de zonage.
Alors, c'est une habitude qui remonte à relativement loin, ça, de laisser les éditeurs le choix au niveau du zonage. Les premiers à l'avoir fait, c'est Sega.
Ouais, sur Mega Drive d'ailleurs.
Sur Mega Drive, où en fait, il y a certains jeux, si tu prenais la cartouche japonaise du jeu et que tu la mettais dans une console d'une autre région. Parce que il y avait un blocage physique, les cartouches avaient pas la même forme, mais c'était très facile de limer en fait le petit machin qui t'empêchait de mettre la cartouche. Et il y a quelques exemples assez célèbres de jeux qui étaient sortis sur Mega Drive où quand tu mets dans une console japonaise, le titre s'affiche en japonais, quand tu mets dans une console américaine ou européenne, le titre s'affiche en anglais.
Ah, c'est pas mal.
Donc t'as vraiment là les mecs, c'était vraiment on lit la région, on vous empêche pas de jouer, on vous offre l'option d'avoir le jeu en anglais. Mais ça remonte à assez loin de laisser le choix à l'éditeur.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est quand même quelque chose qui est assez, enfin, c'est assez particulier. En même temps, dans la tête des gens, c'est pas évident de s'y retrouver parce que tu vas acheter Ace Combat 6 par exemple sur 360. Alors déjà, il y a 10 éditions parce que t'as le Platinum, la Limited, la machin. Et selon que tu l'achètes en Europe ou au Japon ou machin, ou aux États-Unis, ça passera différemment à chaque fois. Les éditions sont même pas similaires entre elles en termes de zonage, quoi. Tu vois? Du coup, quand t'achètes, si tu veux importer ton jeu par le plus grand des hasards, ça commence à devenir un petit peu compliqué pour savoir quoi prendre, sans perdre pour autant un bout de cerveau.
Ah, mais le grand public le fait pas, quoi.
C'est juste ça.
Quand je dis grand public, c'est la majorité des acheteurs. Même moi, ça me fait chier d'acheter au Japon, je sais pas lire le japonais.
Oui, voilà.
C'est très con, mais voilà, ça s'arrête là, quoi.
Mais c'est l'argument numéro 1. Hein. Je veux dire, à la limite, importer un jeu américain, ça me paraît avoir un peu plus de sens pour nous autres Européens, mais.
C'est mon intérêt maintenant parce que les délais de traduction sont vraiment réduits. Tu regardes Fire Emblem, le dernier sur 3DS, il a mis quoi, un mois et demi à sortir entre les États-Unis et le Japon. Entre les États-Unis et l'Europe, parce que le Japon, c'est genre un an.
Ouais. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Antique, qu'il y a vraiment, en ce moment, je trouve qu'il y a un énorme effort qui a été fait les 10 dernières années pour vraiment localiser déjà les jeux, ce qui était, je rappelle que c'était pas toujours le cas, hein, les jeux localisés c'est quand même...
Surtout
les RPG, mais même, enfin, là où il y a beaucoup de textes de manière générale, mais même les jeux localisés c'est quand même relativement rare. Il y a un vrai effort qui a été fait ces 10 dernières années, et surtout, je rappelle qu'en Europe c'est compliqué de localiser, parce qu'aux États-Unis en gros il y a une langue à localiser, éventuellement deux.
Nintendo, ils font l'espagnol et le français d'ailleurs aux États-Unis maintenant. Ils sont.
Oui, parce qu'ils ont le marché québécois et ils ont effectivement, il y a beaucoup d'hispano-américains, donc c'est intéressant de pouvoir traduire le jeu en espagnol. Mais je veux dire, il y a trois langues à faire en Europe. Quand un jeu sort en Europe, il sort en français, en italien, en allemand, en anglais, en espagnol, parfois en portugais.
Parfois en néerlandais.
C'est beaucoup plus compliqué. Parfois en néerlandais, mais c'est quand même.
En italien aussi, non ?
Ouais.
En italien, ils sortent beaucoup. Ouais. Donc je sais pas si tu vois l'effort considérable que font les éditeurs pour le faire.
Ouais, carrément, ça carrément. J'avais écrit un article sur la question un petit peu en 2010 d'ailleurs. On mettra le lien pour les gens après dans le machin. Mais c'est clair que de toute façon, nous on est, enfin, en quelque sorte, en tant que francophone, on est privilégié parce que après le Japon, enfin après le japonais et l'anglais, on a à peu près la langue la plus répandue niveau jeux vidéo sur le marché, quoi. Vu qu'on a la France, on a la Suisse francophone, la Belgique francophone, on a le Québec. On a aussi.
J'aime bien comment tu cites ça dans l'ordre d'importance des populations. La Suisse francophone, la Belgique francophone, le Québec. Alors il y a aussi le Congo. Hein, il faut savoir la République démocratique du Congo. Oui. Le Niger, le Zaïre, enfin c'est important.
Non, enfin il y a toute une série de gens, de toute façon, dans les pays aussi d'Afrique du Nord qui importent leurs consoles, quoi. Parce qu'il n'y a pas de Nintendo.
Ils n'ont pas le choix.
Ouais,
ils n'ont pas le choix. Une question que je me pose, je vais vous la poser, savoir si vous savez, c'est est-ce qu'il y a un blocage régional en Australie et en Afrique du Sud? Parce que les Australiens en fait sont dans la zone pâle, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes télévisions qu'en Europe. Donc pendant très longtemps, les consoles européennes et australiennes étaient les mêmes, sauf que les jeux sortaient en Australie avec un retard absolument délirant. C'est-à-dire que si toi, en tant qu'Européen, tu te plaignais du retard de certains jeux, enfin, il y a des Australiens, ils les ont eu genre 6 ans après, quoi. Donc c'est quand même assez énorme.
Et figure-toi qu'il y a même des jeux qui sont retraduits pour la sortie australienne, alors qu'ils sont déjà disponibles en anglais, mais ils sont encore retraduits par des services de...
Ils sont retraduits en australien.
Ouais, la traduction anglaise d'Australie.
Ils modifient aussi la traduction américaine sur la version anglaise. Hein. Enfin, pour avoir parlé un peu avec une personne qui s'occupe de la localisation chez Nintendo, il m'expliquait que même pour la partie des versions américaines, il fallait qu'ils fassent des modifications en anglais. pour parce qu'il y a des mots qui veulent pas dire la même chose et qui parfois sont insultants.
Oui, oui, non, mais après, c'est même pour les bouquins, c'est pareil au niveau de.
Oui, t'as une très légère adaptation parce que t'as un vocabulaire local. Forcément, c'est le même anglais, mais c'est un anglais qui a évolué un petit peu chacun dans son coin. Donc, il y a effectivement du vocabulaire qui diffère très légèrement, mais c'est des toutes petites retouches, si je me rappelle bien.
Ouais, c'est pas non plus énorme, hein. Mais...
Et il empêche qu'ils sont quand même obligés de reparcourir tout le, texte et de voir si ça correspond aussi, enfin si au niveau des codes culturels et tout ça, c'est pas un petit peu le bordel, quoi. Enfin, encore que l'Australie, c'est encore relativement similaire, de toute façon.
Est-ce qu'il y a une zone Australie ou est-ce qu'ils sont dans la zone Europe ou la zone Amérique ou la zone Japon?
Ils sont pas dans la zone Océanie ou un truc comme ça?
Je
sais pas si c'est bloqué. On s'en fout un petit peu des Australiens, au final.
Moi, je me fous beaucoup des Australiens.
On devrait leur passer un coup de fil, quand même.
Quand j'apprends qu'une console sort en Australie, si tu veux, je me rappelle du jour où ça y est, la GameCube sort en Australie, tu te dis putain, on est quelle date là, 2007, putain, les mecs ils sont un peu à la bourre. C'est à peu près ça. C'est-à-dire, je pense que les Australiens, eux, ils font énormément d'imports et eux, ça doit les intéresser parce que ils ont les États-Unis juste à côté, ils ont le Japon qui est pas si loin que ça. Quand on retourne la carte du monde, finalement, ils sont un peu à une distance des deux. Et je me dis que ça, c'est effectivement des populations qui doivent faire de l'import massivement et depuis de très nombreuses années. Simplement parce que Nintendo of Australia, je sais même pas si ça existe, et puis si ça existe, ils sont à la rue, quoi.
Mais ouais, voilà, exactement. C'est la même chose, t'as la Nouvelle-Calédonie qui est tout près, qui est francophone, tu vois, ils ont des intérêts, ils apporteront plus facilement de Nintendo Japon que Nintendo Europe.
Alors, pour être allé en Nouvelle-Calédonie, les gens ont des consoles américaines là-bas. Beaucoup.
Ah oui.
C'est-à-dire que les gens font énormément d'imports depuis les États-Unis.
Ouais, ça les arrange peut-être mieux financièrement aussi.
Et alors c'est pareil, si vous posez la question, si j'étais en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, tous les territoires, on va dire, caraïbes, font de l'import depuis les États-Unis, parce qu'en réalité, on va dire qu'importer une console américaine, ça coûte quasiment rien. Il y a un bout de Caraïbes à franchir, c'est pas grand-chose à faire. Ouais. Et donc en Guadeloupe notamment, il y a des revendeurs spécialisés dans l'import qui eux font vraiment de l'import massif. Mais en général, les gens achètent la console américaine, achètent les jeux américains et se posent pas de questions, quoi.
Ouais.
Ils attendent pas que ça revienne de France parce que bon, c'est quand même un peu
c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Tiens, d'ailleurs, pour un petit peu comparer, enfin, pour revenir à une question de pognon, mais du côté joueur cette fois-ci, j'ai comparé les prix de deux sorties, enfin, de deux jeux, un qui vient de sortir récemment et un qui va être à venir sur en prenant simplement Amazon, tout simplement. Si on prend Pikmin 3, donc qui sort le 26 juillet, si je dis pas de bêtises, il est en précommande sur Amazon. Bon, Amazon, c'est peut-être pas la... Je l'ai pris parce que c'est par facilité, parce que c'est un store... enfin voilà, c'est mondial, ils sont partout. Mais sachant qu'en Europe, bon voilà, on sait bien qu'ils optimisent fiscalement leur pognon en centralisant leurs bénéfices au Luxembourg. Donc voilà, c'est ce qui leur permet de faire des gros prix, enfin des prix de ouf.
Et du coup, ils bénéficient de l'effet de levier des actions.
Du coup, grosso modo, Pikmin 3 en Europe, en précommande à 44€. Alors, au Japon, il est à 5093 yens, ce qui fait 40€. Aux États-Unis, il est à 60$, ce qui fait 47€ au taux de change actuel. Voilà, selon la fluctuation des taux de change, évidemment, ce sera différent, mais aujourd'hui même, pour Pikmin 3, c'est ce qu'il en est. Donc, contre la version japonaise américaine, grosso modo, il y a 7€, ça fait 20% du prix quand même.
Oui, mais le problème, c'est que derrière, t'as oublié un truc fondamental, c'est la taxe La Poste.
Et oui, les frais de port aussi, non?
T'as les frais de port, quoi. Je veux dire, si tu comptes les frais de port depuis les États-Unis, tu te fais fumer, hein.
Ouais. Ça fait 10 balles de plus déjà, de base.
Ça fait, ouais. Tu vois, c'est pour ça que je dis, ouais, c'est l'argument, je trouve, qui tient pas debout, quoi. Je veux dire.
Oui, ça, c'est certain, mais
sauf si tu veux absolument jouer à ton jeu deux semaines avant tout le monde. Parce que Pikmin 3, en gros, il est sorti ou il va sortir cette semaine, c'est ridicule.
Ça va être 2 semaines avant la date officielle de sortie en France. Parce que généralement, maintenant, la Fnac et tout le reste se gênent pas pour sortir leur jeu une semaine avant.
Mais là, le prix est encore relativement similaire. Mais si on prend un autre exemple récent, qui est Luigi U, donc le DLC pour Mario. Si on prend la version boîte, attends, en Europe, la version boîte est en précommande à Pompom, où est-ce que j'ai noté le prix?
À 40 boules. Voilà.
À 40 boules. Et aux États-Unis, la version boîte est à 30$, ce qui fait 23€.
Ah là, on se fait piner, là, par contre.
Ah là, on se fait totalement piner. Hein. Alors, du coup, Nintendo va rentrer plein de fric avec par Luigi U, Nintendo va rentrer plein de fric de l'Europe et moins des États-Unis. Et du coup, enfin, évidemment, de toute façon, on se fait piner parce qu'il est trop cher par rapport à ce que, pour un DLC, etc. Mais, c'est quand même un truc qui pose question de se dire, voilà, Nintendo fait un petit peu sa tarification comme il l'entend, où il veut. Et ça profite pas nécessairement aux joueurs,
oui, mais ça,
aux joueurs européens dans ce cas-ci.
Ça, c'est parce qu'ils l'éditent partout, mais tu prends, je vais prendre un exemple très con, il y a Rising Star Games, C'est la société d'édition en fait qui a édité en Europe No More Heroes, No More Heroes 2. Je crois qu'ils ont édité aussi Muramasa.
Ouais,
Little ont... King Story.
Ouais, enfin, exactement.
Si tu veux, eux, leur fonds de commerce, c'est d'aller prendre des jeux japonais qui, dont l'éditeur d'origine japonais n'a pas de prise en Europe, n'a pas de réseau de distribution en Europe, et d'aller le distribuer. Ces gens-là existent parce que ils parient, c'est un pari, hein, que les jeux japonais, s'ils sont traduits, s'ils font l'effort de les traduire, ça se vendra. Si ces mecs-là, tu commences à dire, bah, c'est Region Free, là, je pense que eux, tu leur casses leur business. Officiellement.
Ouais, c'est certain, mais en même temps, ça facilitera la vie à tout le monde.
Sauf à ces mecs-là.
À condition qu'ils soient traduits, quoi. Tu vois?
Ouais, ça voilà, les empêchera. Le problème, c'est qu'ils font l'effort de le traduire.
Même si c'est Region Free, ça les empêchera pas de traduire le jeu et de le commercialiser en Europe. Tu vois?
Enfin, mais ils leur font un réseau de distribution. Mais ils leur font un réseau de distribution. Le problème, c'est que pour garantir le réseau de distribution, ils seront obligés de dire, nous, on le vend que au Japon et surtout jamais on le vend en Europe.
Ouais.
Et c'est pas possible parce qu'il y a un blocage régional. Tu vois le raisonnement?
Ouais.
Bon. Messieurs, on va peut-être marquer une petite pause musicale parce que là, ça fait un petit moment qu'on discute de tout un tas de choses et c'était très très intéressant. Je vous remercie beaucoup d'ailleurs parce que c'est vrai qu'on a dérivé un peu sur les localisations.
Moi
c'est
aussi,
vrai que le sujet est aussi intéressant.
Ça fera du mal.
Je pense qu'on peut s'auto-congratuler et ce qu'on va faire pendant la pause musicale, c'est qu'on va se lier le corps.
On va faire des bisous.
Et on va se frotter les uns sur les autres.
D'ailleurs, je suis en slip déjà.
C'est donc la première web émission en direct,
dans mon appartement,
en direct et en slip. C'est important. En direct et en slip, c'est du.
Alors j'ai déjà fait des autres en slip les années précédentes, il me semble.
Et ils t'ont pas viré de l'entrée du Convention Center?
Pas du tout. Ils étaient heureux de me voir dandiner, mais.
Tes petites fesses, mais oui. Mm. Bon, au lieu de faire tendrement l'amour dans les fesses à Méduse, on va s'écouter un petit morceau d'un groupe qui porte bien son nom, du coup, qui s'appelle Pornophonique. Et le morceau s'appelle Space Invaders. C'est de la musique en Creative Commons, donc vous avez le droit de le partager, de l'enregistrer et de le diffuser à vos amis. Le groupe se définit lui-même, définit son style comme étant du 8-bit Game Boy Guitar, et vous allez voir que c'est quand même assez particulier. On se retrouve dans un petit peu plus de 3 minutes. Can you take me home? Can you take me home? Et là, de retour.
Tour.
Ah d'accord, je me suis dit la dure.
Pour vous jouer un mauvais tour.
Non, ça on l'a déjà fait une fois, les gens ont crié.
Désolé.
On n'a pas le droit de chanter le générique des Pokémon apparemment.
Ah bon?
Bah oui, c'est interdit, je comprends pas pourquoi.
C'est tabou sur Nintendo Joe?
C'est le tabou sur Nintendo Joe. Il y a trois trucs tabous, il y a le sexe de si rare, tabou. Trop gros, on n'en arrive pas à... On est tabou. ce jeu de mots pour. C'est offert par Mortal. Merci. Donc, entre deuxième partie.
T'as des coupures?
Donc nous allons reprendre notre partie de l'émission.
T'as toujours des coupures. Chers auditeurs, nous allons donc reprendre cette deuxième partie de l'émission. On va vous parler des jeux de l'été. Il y a une poignée de jeux qui sort sur console Nintendo ici tout bientôt prochainement. On va en parler vite fait aussi, vous dire à quoi nous on aime bien jouer l'été et pourquoi. Mortal sera revenu.
Voilà. Donc je vais reprendre en espérant que cette fois-ci je ne queen plus.
Je ne queen plus.
Donc je vais vous donner quelques conseils. Ah non.
Non, vas-y, continuons, Katouni, ça passe.
Le méchant, il arrête pas de dire que ça coupe. Donc je vais vous donner quelques petits conseils pour jouer en toute sérénité sur plage, parce que c'est vrai que c'est important quand on emmène sa console sur plage, on n'a pas envie d'animer.
Ça coupe encore parfois, en fait.
C'est de pire en pire.
Non, arrêtez de dire ça. Qui c'est qui fait bruit sur la ligne? Bon, alors Méduse, je te propose de commencer par les sorties de jeux, du coup, puis je ferai mon truc après. Ouais. J'essaie de okay. trouver la raison de la vie.
Ça cale dans l'ordre. Alors, on va faire par jeu à chaque fois. D'abord, en gros, grosso modo, sur Wii U, sur 3DS, je ne sais pas. Sur Wii U, il y a la version boîte de Super Luigi U qui sort, j'ai oublié la date, mais c'est en
quelque part entre... juillet.
Le 26 juillet, le même jeu que Pikmin 3.
Exactement.
Qui est grosso modo la grosse sortie du mois de juillet.
Il y aura une boîte verte.
Il y aura une très belle boîte verte.
C'est important de le signaler.
Il coûtera cher. Donc il sortira le même jour que Pikmin 3. Et après, c'est le creux jusqu'à la fin août, où là, c'est la concentration. Parce qu'on va avoir, calé grosso modo entre le 26 et le 30 août, si je ne dis pas de bêtises, on va avoir The Wonderful 101, le jeu de Platinum Games.
Le 23.
Le jeu qu'on peut pas expliquer, qu'il faut regarder des vidéos.
Il est génial comme jeu.
Il est génial ce jeu.
Il a l'air énorme. Le 23, effectivement. Et après, il va y avoir Splinter Cell Blacklist qui sort le 20... C'est pas le 26 ?
C'est le 22.
C'est le 22, merci. Et pour finir le mois d'août, ce sera carrément la rentrée, Rayman Legends le 29, c'est ça ?
C'est ça.
29, ah ben, je suis bon quand même pour un truc. Rayman Legends, ouais, voilà, sur Wii U. Grosso modo, c'est les 5 sorties de l'été.
Et pour les petits-enfants riches, il y a Disney Infinity le 22. C'est important de le signaler.
Non. Du coup, sur la petite saison, là, qu'est-ce qui vous tente le plus ? Par exemple, Antix, t'as un jeu préféré de l'été que t'es sûr que tu vas acheter ou tu vas le prendre ? Parce que t'es un gros fêlé, quoi.
Ouais, déjà, le problème, c'est que sur Wii U, je n'ai pas encore de Wii U, donc c'est un peu raté.
Comment il va faire, Tonton Iwata, pour faire ses 100 milliards de yens ?
Oui, Tonton Satoru.
Bah, il attendra qu'il sorte des bons jeux que j'achète. Ce sera mon début.
Pikmin 3.
Est-ce qu'il y a un jeu de cet été qui te plus que les autres où tu dis celui-là, je vais peut-être acheter une Wii U pour ça ?
The Wonderful 101.
Ah mec, tu gères.
Parce que c'est Platinum Game et que c'est un peu les meilleurs développeurs japonais ces dernières années.
Mais officiellement, le 26 août, t'as une Wii U, quoi.
Si j'ai de la thune, ouais.
tu vendras ton corps pour ça.
Frosty, t'as un jeu pour cet été qui te tente plus que d'autres ?
Pikmin 3, forcément. Enfin, ça fait des années que je l'attends.
Moi aussi, ça fait des années que je l'attends.
Voilà, des années. New Super Luigi U, c'est vraiment si... Ouais, non, je sais pas trop en fait.
Prends le Sony Shop.
Non, mais déjà le Mario U, je l'ai même pas terminé parce qu'il m'a gavé en fait. J'arrive pas à y jouer.
Bouh, bar, bouh.
Ah non, mais moi je veux un Mario Galaxy ou un truc comme ça, mais pas un truc qu'on a déjà 15 000 fois. Et Rayman Legend, forcément, The Wonderful 101, je l'aurai aussi, et peut-être même Splinter Cell Blacklist.
Carrément, sur Wii ou Splinter Cell ?
Oui, parce qu'au final, il y a des petites interactions sympas avec le gamepad.
Ah ouais.
Donc, autant l'acheter sur Wii U, là, enfin voilà. À moins qu'on ait vraiment une version super inférieure, et là, je le prendrai sur PC.
Forcément. Logique.
Là, tu vas laisser une chance à une autre console quand je le prends sur PC.
Non, parce que si encore des trucs online, je suppose qu'un de ces quatre, ils vont tout fermer. Donc, au moins sur PC, ça marchera.
Je serais pas aussi catégorique.
Presque. Mais oui, non, je pense que je le prendrai sur Wii U.
Pour les ajouts de gameplay du gamepad.
Ouais.
Et sur 3DS, alors il y a moins de choses. Pour les enfants riches, il y a toujours Disney Infinity.
Il y a eu Project X Zone le 5 juillet, qui est déjà sorti.
Voilà, il me semble qu'il y a Shinji Mikami Tensei aussi qui.
C'est pas que aux États-Unis ça ?
C'est aux États-Unis, je pense.
Pour moi, États-Unis.
En fait, aux États-Unis en Europe, c'est pas encore confirmé, je pense.
Ouais, je crois que c'est la fin de l'année.
Il sort en Europe, mais on n'a pas la date, ouais. Il y a Mario Luigi Dream Team Bros. Je crois que c'est ça, qui sort le 12 juillet.
Alors, sur 3D, on a un été un peu vide au final.
Il sort vendredi.
Parce que...
Le printemps qu'il y a eu, ça me paraît surprend pas plus que ça, en fait.
Ouais, et le dernier gros jeu, c'est Etrian Odyssey 4, qui sort le 30 août.
Ouais, à moins un jeu. Donc, un gros jeu, mais ouais.
Et Flipnote Studio 3D qui est gratos, qui sort le 1er août.
Ouais, ça c'est cool.
Ouais.
Mais voilà, ça va être. Oui, ça c'est un jeu. Ça c'est un jeu pour les chiottes, ça par contre. Voilà.
Il y a aussi un jeu qui sort sur l'eShop de la 3DS. C'est un jeu de shoot qui sort ce jeudi dont j'ai complètement oublié le nom.
Kokuga.
C'est un jeu japonais.
Tu as dit si, c'est... Ouais, Kokuga, ouais.
Il a une... et ça a l'air très sympa.
Ouais.
Il est sorti l'année dernière en septembre au Japon.
Alors à propos de jouer sur les chiottes, je rebondis sur ce que tu dis. Alors, ne dis pas sur les chiottes. pas souvent. un jour, on fera un spécial jeu des chiottes. Et en attendant, je voulais vous dire avec un petit guide de comment on peut jouer en toute sérénité sur la plage. Parce que c'est vrai que c'est un temps de pouvoir jouer en toute sérénité sur la plage. Peur d'amieux.
C'est vrai qu'on va à la plage, c'est pour jouer, quoi.
Bah oui, moi, à la plage avec ma console, c'est très agréable. Alors, d'abord, il faut savoir, c'est un petit peu difficile d'amener sa console de salon sur la plage que sa console portable. Hein. Donc, j'ai tendance quand même à vous conseiller la console portable. Tenter des trucs avec une cigare, une batterie, tout un truc, mais c'est toujours un petit peu compliqué. Alors, apparemment, toujours, je vais finir abandonné, en fait.
Ouais, mais on arrive à te décoder, donc tu peux y aller.
Enfin... Bon, je continue, et puis tant pis, je me bloquerai, et je me referai un montage, et puis je me pignorerai.
Voilà. Mon... Exactement. Vas-y.
Essayer de comprendre pourquoi. Voilà, donc la console de salon, moi je les conseille, surtout qu'il y a moyen de vider la batterie rapidement, on est resté à côté de la bagnole, enfin c'est quand même assez chiant.
Surtout que la bagnole sur la plage, bon.
Ouais, mais tu l'as sur la plage, enfin tu passes con, enfin ça marche pas quoi, je veux dire, c'est vraiment pas terrible. Il y a un deuxième truc, les consoles portent n'aiment pas la mer, donc elles ne savent pas nager, hein, donc d'abord c'est pas la peine de les emmener se baigner, hein, je veux dire, nager. Déjà tu peux abandonner tout de suite. En général les trans salé, résultat un peu bizarre, elle marche moins bien, ouais. Comme ça, il est un peu relou. Alors les consoles n'aiment pas non plus le sol, hein, c'est relativement fragile. Ça sert à rien de mettre de la crème dessus. Après, elle est toute grasse, ils se déchirent les mains et ils vont tenir. Je veux dire, moi j'ai essayé une fois, c'est injouable. Hein. Après, on en met partout, enfin c'est dégueulasse. Et en plus, on n'en tire même pas le pire que de mettre de la crème solaire sur rien. Ouais, c'est quand même un peu important.
Sur un quoi ça a coupé?
Sur quelqu'un.
Ah oui, ok. Voilà, c'est la première chronique en fait où il faut décoder les mots qui manquent. Quoi. Enfin, je sais si ça va, mais là j'ai eu un break, désolé.
C'est un espèce de. Ouais, c'est un concept.
C'est un concept qui reste vachement concept. Je sais pas pourquoi ça coupe. Hein. Je suis désolé, j'espère que ce sera quand même un peu deal, mais.
Tu le fais exprès, t'as juste envie de nous casser les couilles en fait.
La grosse fédère, c'est.
Tu pourrais le faire pour ça. Bref, les consoles pop n'aiment pas le ça plus, alors ça se met charnière, les emplacements de bas de pile, ça peut rayer les. Donc il faut faire attention avec le sable. Du coup, tu vas me dire, voilà, elles aiment pas le soleil. Pourquoi je les emmerde à la plage? Parce que c'est moi qui décide d'abord, et puis je les emmerde. Faut quand même pas déconner. Voilà, donc très sérieusement, si vous voulez emmener une console portable sur la plage, moi, il y a un conseil que je peux vous donner, vous la mettez dans un sac congélation et vous jouez à travers le sac congélation. Alors ça a l'air comme ça, mais super bien. Et puis, jouer tranquillement sans te faire chier. Expérimenté par mortal. D'un point de vue luminosité, comme il y a.
T'as des sacs à nous conseiller.
Le Halbal, ça marche pas trop. Moi, ce que je peux vous conseiller, par contre, prendre plutôt une console avec une bonne luminosité. Parce que quand il y a beaucoup de. C'est pas évident d'arriver à quelque chose dessus.
Alors, je confirme, la 2DS, c'est une horreur.
Et la 3DS aussi, pour le coup.
Oui, c'est 3D, pas terrible.
C'est pareil, hein, la 3DS au soleil, ça marche pas très très bien.
Ça fait bon miroir, mais pour le jeu, c'est pas
terrible. La 3D au soleil marche pas terrible du tout, donc en général, on la désactive.
Ah, mais même pas, l'écran de base, on voit rien en fait. Hein.
Ouais, l'écran si pas terrible. Ouais,
même avec la luminosité à donf.
Ouais, ah, ouais,
à donf, c'est ouais. Mieux. Mais... Ah, ouais. Donc moi, je conseille la GBSP, la dernière version, qui a un écran rétro-éclairé beaucoup plus efficace que la première. Qui avait plutôt un bon écran.
Et la Game Boy Micro.
C'est la Game Boy Micro, ouais. Il y a le AGS-1, AGBASP, qui a un très très bon écran.
Celui qui arrive à retenir la référence, là, c'est balèze.
AGS-101 ou 001
AGS-100. Ouais.
Ah merde, là, j'ai ma GBASP édition Zelda sous les yeux, c'est AGS-001. Effectivement, je confirme, on voit rien du tout. Okay. Ouais, mais c'est la seule.
Ah bah pareil, c'est
GBASP Zelda, t'as vu?
Ouais, non, et c'est pas parce qu'elle est Zelda qu'elle est bien.
Si.
Voilà. Et en ce qui concerne donc les jeux que peut emmener sur la plage ou emmener facilement en vacances, alors moi en vacances j'aime bien faire des jeux réflexions. Donc j'aurais quelques titres à vous conseiller, évidemment les incontournables, hein, genre les tons. C'est le genre de truc, effectivement, ça occupe en vacances. Tetris, grand classique, quelle que soit la version, hein, même Boy, ça marche encore super bien. Et moi il y a deux petits jeux que j'aime bien qui sont faits par Fredo Studio, qui était un petit studio français qui a fermé ses portes entre deux, qui sont NES Breakdown et Big Bang Mini sur Nintendo.
C'est trop bien, ça.
Et voilà, c'est deux très très bons jeux, et franchement, ça occupe. Ce qui est bien, c'est que se mettre dans une partie, faire jouer aller faire un jokari, jouer 5 minutes, retourner se baigner, enfin c'est vraiment un jeu dans lequel on peut entrer et sortir en 30 secondes sans tête, et c'est le genre de jeu qui est quand même idéal pour les vacances.
Est-ce que c'est idéal pour pécho à la plage?
Alors pécho à la plage quand t'as ta Game Boy stock, c'est tendu. Super tendu.
Surtout dans un sac congélation.
T'as la double classe.
Déjà.
Maintenant, t'imagines quand même, si t'as ta glace à la plage et que tu fais tomber la boule Game Boy, la Game Boy est grâce au sac congélation.
Ah oui.
Pense à ça, c'est important.
C'est très bien pensé.
Ingénieur 5, hein, les gars, il y a quand même du boulot derrière. Hein. Voilà, donc si vous avez, vous, quelques jeux à conseiller en vacances, des jeux rapides ou des jeux longs, des choses que vous aimez bien jouer pour une autre.
Moi, généralement, je fais des jeux à thème, en fait, en fonction de la... Enfin, c'est comme ça, hein, en fonction de la saison. Genre l'été, j'aime bien jouer genre à Super Mario Sunshine, des trucs comme ça. Des jeux qui se passent dehors, des petits jeux d'aventure. Je voulais me faire Wind Waker, mais ce con, il ressort en octobre, donc du coup, je vais te d'attendre. Mais j'aime bien faire des jeux comme ça, où l'hiver, jouer à SSX, j'aime bien. Ça colle un peu à l'ambiance.
D'accord, alors t'essayes de faire coller les jeux à l'ambiance, en fait, tu t'occupes pas forcément
bien,
de la...
Bah, il fait chaud dehors, et puis il fait chaud dans ton jeu, j'aime bien.
Ok, non mais c'est j'aime bien.
Ah, c'est conceptuel. C'est une bonne idée. J'ai toujours fait ça.
Antix, t'avais un jeu préféré que tu préfères jouer, une petite sélection de petits jeux que tu pourrais conseiller?
Alors moi, pendant très longtemps, l'été, je refaisais le premier Fire Emblem sur Game Boy Advance. Ce qui fait qu'à cause de ça, j'ai dû le refaire au moins 7 ou 8 fois. Et donc là, je pense que je vais remettre ça avec celui sur 3DS, parce qu'il était quand même assez bien. Mais de manière générale, je fais souvent des tactical RPG l'été, parce que c'est des jeux extrêmement longs, et comme j'ai beaucoup plus de temps, bah, j'ai quand même le temps de les finir. Et sinon, en jeu là que je conseillerais pour cet été, donc en dehors d'Animal Crossing, qui va sûrement m'occuper dans les transports jusqu'à la fin.
C'est pas un jeu, on a parlé d'un jeu.
Ouais, tu t'emmerdes là-dedans. Enfin...
Non, mais c'est... Attends, c'est mignon, tu peux creuser les trous, faire des lignes, porter des fleurs.
Non, c'est hyper relou, parce qu'en plus, les magasins, ils ont les mêmes horaires que toi. Donc du coup, moi, pour jouer dans le bus, bah, genre le matin à 8h30, bah, le magasin dans le jeu, il est fermé, quoi. J'ai l'air con. Et le soir, quand je reviens, bah, le magasin, il est fermé aussi.
C'est pour ça
que tu
mettes...
À quelle heure chez toi?
Faut que tu mettes ta console en port. Faut que tu mettes ta console...
Bah ouais, voilà. Non, mais je suis obligé de changer l'heure de ma console. C'est super chiant, en fait.
Mais c'est pas un problème, Frosty.
Sinon, si vous voulez parler de vrais jeux, j'en ai un à vous proposer sur 3DS, qui est Mighty Switch Force 2.
Ah, il est bien sûr.
Qui vient de sortir tout
récemment. Le 1 est bien, le 2
est bien. Le 1 aussi, si vous l'avez pas fait, parce qu'il est quand même top. Et qu'il y a plus de niveaux pour le coup. Et c'est des niveaux qui sont assez courts, c'est super drôle à jouer, ça se joue extrêmement bien, les musiques sont top. Et vous les entendrez pas sur la plage.
Oui, c'est un peu compliqué.
Super.
D'accord. Dans sa congélation, t'auras du mal à entendre les haut-parleurs de la 3DS, honnêtement.
Ah bah ça c'est le défaut de cette méthode. Non,
t'as pas fait encore un trou pour le casque tout.
Non. Faire un trou, tu risques de faire rentrer un blanc. C'est super. Faut trouver le bon.
Bon, voilà, c'est top. Ce que je voulais proposer.
C'est pas mal, c'est pas mal. Bah, pour le coup, ça tombe bien que tu parlais de Tactical, puisque j'ai justement recommencé Final Fantasy Tactics sur GBA. Parce que c'est la troisième fois que je le recommence, et les deux premières fois, j'avais pas eu le temps de le finir, et là, je suis un petit peu à bloc dessus. Donc, l'été pour moi, c'est, pour le moment, j'ai du temps, ça va, mais généralement, l'été, pendant les congés, si je pars pas en vacances, c'est vrai que c'est toujours l'occasion de faire un gros jeu ou deux, que j'ai pas nécessairement le temps durant le reste de l'année, quoi. Donc, je sais pas ce que je vais faire d'autre. On entamait Rayman Origin avec madame chez moi. Donc, ça permet aussi un petit peu de varier les plaisirs. Et voilà, l'an dernier, enfin, il y a quelques années, j'avais fait, en 2010, je crois, j'avais fait Twilight Princess et j'étais à 4. Par exemple,
c'est hétéroclite, ça, comme sélection. Hein.
Ouais, car moi, j'ai toujours ma grosse réserve de jeux, puis j'en prends un au hasard de temps en temps quand je sais que j'aurai une grosse période de temps. Sinon, j'ai pas trop le. Pas trop. J'aime bien pouvoir bénéficier d'être dans la meilleure condition possible, etc. Donc, j'aime bien prendre le jeu, jouer de bonnes heures, au moins de bonnes heures d'un coup. Ça me ferait chier de jouer en semaine, juste trois quarts d'heure ou un truc comme ça, quoi. Ouais. Donc, du coup, j'attends l'été. Enfin, j'attends d'avoir de grosses périodes de creux, notamment l'été, quoi. Par contre, si je partais à la plage, ce serait sans la console, assurément. D'ailleurs, cet été va être critique parce que je risque de partir début août et finalement j'aurai pas le temps. Je vais prendre Pikmin 3 probablement avant de partir, mais j'aurai probablement pas le temps d'en profiter dans la mesure où comme j'aime bien mes conditions, etc., si c'est juste pour y jouer 5 jours, non merci, quoi. Et voilà, d'accord. Donc je risque au retour de vacances d'avoir Pikmin 3 et Rayman Origins à faire, et peut-être The Wonderful 101, qui devront pour le coup peut-être attendre l'été prochain. Et surtout, en plus de ça, l'été, c'est parfois l'occasion de découvrir de bons petits jeux, puisqu'il y a les soldes Steam, ça devrait être ce jeudi d'ailleurs, avec un peu de chance.
Ah, merde.
Et donc, c'est toujours l'occasion de faire le plein de jeux vidéo pour pas cher sur PC.
On était
et de découvrir quelques machins.
Et surtout de pas y jouer.
Sympathique. Et de pas y jouer, ou d'y jouer quand t'as le temps, ou de prendre des jeux qui prennent pas trop longtemps. J'ai profité du début d'été pour faire Limbo d'ailleurs, que j'ai sur Steam depuis 2 ans, mais que j'avais pas encore lancé. Voilà, par exemple. Et voilà.
D'accord, oui, c'était intéressant de voir vos petites habitudes de l'été. Chacun son petit truc, je trouve ça. Tactical RPG, les jeux à thème. J'ai bien aimé le con.
Ouais.
C'est pas mal ça.
Et moi j'adore genre Hippor, tu fais un jeu pleu dedans.
C'est joyeux.
Voilà, c'est
chouette. Ah, t'es dans un parc, tu joues à Monster Hunter sur 3DS, c'est nickel.
Par exemple.
D'accord, franchement,
une fois que la nuit tombe dans le jeu, tu dois attendre la nuit dans le parc pour le coup.
Ah non, tu joues.
Ah sinon, t'es pas dans les mêmes conditions.
Je fais comment dans Call of Duty.
Version 0, sinon.
Ah, j'attends la flotte dans Animal Crossing quand il pleut. Enfin, c'est super chiant, mais.
Non, et dans Monster Hunter, quand tu changes de zone, tu bouges aussi en fait.
Ah bah je change de parc en fait. Voilà.
Ça, je pense que j'ai fait le bout de la France.
Bon, messieurs, on va se quitter là-dessus. Quelqu'un a un dernier mot, un mot de la fin. Non, j'ai un mot de la fin. Ftiste, un mot de la fin.
Ouais, TKT, c'est marqué là.
Antique, c'est un mot de la fin.
Plorp.
Ok, Méduse, un mot de la fin.
Non. Je suis en grève du mot de la fin aujourd'hui.
D'accord, je vais dire fin, parce que c'est bien comme mot de la fin.
C'est voilà, allez,
on va se retrouver dans 2 semaines pour une émission un petit peu spéciale, la dernière de la saison, donc on va faire un season finale à l'Amérique avec des gonzesses en bikini, des hélicoptères et des bombes. Enfin, on va essayer. Et donc, on se retrouve dans le mardi 23 juillet, si je dis pas de bêtises. Voilà, dans 2 semaines tout le monde, au revoir.
Salut.
Au revoir, salut.